France Info.
L'infomédia en bref, tout d'abord Didier Siamour, après avoir acquis les droits télé de la Ligue 1, Mediapro vient de rafler en partie ceux de la Ligue 2.
Oui, la Ligue 2 football professionnel a annoncé hier la vente des droits de diffusion de la Ligue 2 sur la période 2020-2024 au groupe espagnol Mediapro et au groupe qatari beIN Sport pour un montant de 64 millions d'euros par saison, soit trois fois plus que pour le contrat actuellement en cours détenu par beIN. De surprise, hein, la Ligue de football n'a pas reçu d'offre ni d'Altice, qui est propriétaire du bouquet RMC Sport, ni de Canal+, nous a indiqué le directeur général de la Ligue, Didier Quillot, et l'appel d'offres pour la Coupe de la Ligue, lui, est resté infructueux.
Netflix sera dorénavant proposé directement dans les box de Free.
Oui, l'opérateur Télécom a présenté hier ses nouvelles offres, avec notamment sa nouvelle box baptisée Delta, qui comporte de nombreuses fonctionnalités et services, avec un kiosque à journaux et le service de vidéo à la demande. Netflix donc proposé sans surcoût, ainsi que l'offre de Canal en télévision, mais Netflix est également intégré dans l'offre en entrée de gamme.
Notre invité ce matin est réalisateur et co-auteur d'une série documentaire en 5 épisodes qui sera diffusée ce soir et demain à 21h sur France 3.
Oui, Pierre Hurel, bonjour.
Bonjour.
Alors, 34 ans après les faits, l'affaire Grégory reste un mystère hein, parce que c'est toujours pas résolu. En conséquence, et malgré de nombreux livres et émissions ayant déjà traité le sujet, il reste un thème de prédilection pour beaucoup, comme avec cette série La Malédiction de la Vologne, diffusée donc ce soir, deux soirs de suite, sur France 3.
Événement sur France 3.
Grégory, un petit garçon de 4 ans, a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges.
Un fait divers unique. Une réalité qui dépasse la fiction.
Je vous ai menti.
Une affaire qui a tenu la France en haleine pendant 34 ans.
Et si c'était pas Bernard Laroche ?
C'est lui.
Pour la première fois, une série documentaire ressort toutes les pièces du dossier.
Oui, tout le monde se doute qu'il peut être le corbeau.
Alors, oui.
Des insultes.
Vermine, connasse.
C'est un corbeau qui sait ce qu'il fait.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore, Pierre Hurel, à raconter sur l'affaire Grégory qui n'ait déjà été dit ?
Alors, c'est exactement la question que m'a posé mon buraliste ce matin quand j'étais boire mon café.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu à votre buraliste ?
Encore Grégory. Alors, d'abord, ça m'a énervé. Non, et je lui ai dit...
Donc,
alors,
je vous énerve, d'accord.
Ça m'a pas énervé, mais je lui ai dit ce que je voulais raconter, c'est la petite histoire dans la grande... Et que pour moi, c'est un petit bout d'histoire de France, cette affaire Grégory. C'est 35 ans de la France. C'est la révolution de la police et de la gendarmerie avec l'arrivée de la police scientifique après cette histoire, vu qu'ils avaient complètement, passez-moi le terme, mais foiré l'enquête. C'est l'histoire de la fin de la ruralité. Pour moi, c'est une histoire qui raconte beaucoup plus que le simple fait divers qu'on peut traiter de manière fait divers comme ça a été fait 10 000 fois.
Et alors, d'ailleurs, vous intéressez beaucoup en fait au contexte, hein, à l'environnement. C'est une manière de s'intéresser donc à une France aussi peu visible, peut-être celle dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui.
Ah, tout à fait. Lorsque j'attendais d'entrer dans votre studio, je me demandais si les acteurs de cette affaire auraient été gilets jaunes ou pas. Et ben, je pense que chez les Jacob, chez les Boll. Peut-être pas Jean-Marie Villemain, mais les autres, ses frères justement, ils auraient été gilets jaunes. Ça explique presque l'histoire, puisque tout ça part d'une jalousie entre un couple qui réussit, un jeune homme Jean-Marie qui devient contremaître, alors que toute sa famille est ouvrier et est à la CGT, lui devient contremaître, il s'achète une plus belle maison, un plus beau canapé en cuir, et le début de la jalousie qui, d'après moi, c'est les racines du mal de cette histoire. Eh bien, ça a à voir un peu avec les gilets jaunes.
C'est pour ça qu'elle nous touche encore aujourd'hui, cette histoire, parce qu'il y a tous les ressorts finalement dramatiques. La jalousie, vous l'avez rappelé, le cadre familial un peu fermé, la vallée un peu isolée. On peut pas poser la question comme ça, parce qu'il y a eu des morts dans cette affaire, mais c'est presque un scénario incroyable de cinéma.
Ah bah tout à fait, hein, tout à fait. Hein. Pour moi, je me considère beaucoup plus comme un conteur que comme un journaliste, ou en tout cas comme un conteur que comme un enquêteur. Donc je suis pas un enquêteur, j'ai pas trouvé de nouveauté. Simplement, j'ai fait un plan beaucoup plus large. J'ai expliqué où ça se passait.
Vous n'êtes pas un enquêteur, ça veut dire que vous ne vous êtes pas forgé une intime conviction.
Non.
À la fin, vous ne savez pas vous. Vous n'avez pas une idée, vous.
Non.
Personne ne sait évidemment.
Non. Mon co-auteur, Christophe Dubois, a peut-être une conviction, vous le demanderez si vous le rencontrez. Mais lui est un spécialiste de la justice, de la police et des enquêtes. Et donc c'était un peu, c'est pour ça qu'on a fait un duo dans l'écriture, c'était pour qu'il apporte la rigueur journalistique enquêtrice à ce travail de conteur.
Alors, vous avez retrouvé un certain nombre de protagonistes de cette histoire. Comment on est accueilli en 2018 dans cette région de la Vologne qui a été quand même sillonnée par les médias?
Un peu comme avec votre buralite ce matin, non?
Oh, pire que ça. Non, j'allais dire avec un fusil. Non, pas avec un fusil, mais presque. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma méthode, j'ai été à peu près une dizaine de fois dans la Vologne et j'ai jamais été voir les protagonistes de l'affaire. J'ai été voir la Vologne. J'ai été, ben, encore une fois, au café, à la boulangerie. Il en reste pas beaucoup parce que c'est une région en crise. Et je me suis intéressé à comment vivaient les gens, comment se faisait-il que ces gens qui étaient tous des paysans soient devenus brusquement ouvriers, parce qu'en fait, les usines sont venues à la vallée. Dans la plupart de la France, c'est d'habitude, c'est les paysans quittent les zones rurales pour aller chercher du travail en ville. Non, là, le travail est venu chez eux. Et donc, on est arrivé à cette espèce de métissage, de mixage entre une mentalité rurale, fermée, taiseuse, où on épie les autres, et puis la promiscuité de cités ouvrières qui étaient construites devant les usines, qui donnaient des familles plus nombreuses, plus de bistrots, plus de regards, et...
Dans le traitement formel, on sent que vous êtes très inspiré par ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les plateformes de vidéos à la demande. Netflix se met au documentaire. Ça, c'est quelque chose que vous avez regardé avec attention.
Ah bah, tout à fait. Même pour être encore plus précis. Alors, il se trouve que la série documentaire qui a déclenché mon envie de faire cette série, c'est une série qui est passée sur Arte. Mais c'est un peu le même style. C'était une série sur O.J. Simpson, oui, qui est donc un joueur de football américain. Et en racontant l'histoire d'O.J. Simpson, qui est un type qui a massacré sa femme, qui a tué sa femme, on racontait aussi les émeutes noires de Los Angeles. Et ben, de la même manière, lorsqu'on raconte l'affaire de Grégory, on raconte, comme je l'ai dit tout à l'heure, 35 ans de la France.
Pierre Hurel, merci. La malédiction de la Vologne, c'est donc à découvrir en 5 épisodes à partir de ce soir, 21h sur France 3, ce soir et demain suivi d'un débat, c'est ça?
Absolument.
Merci à vous d'être venu ce matin nous le présenter. Merci Didier Siamo.